Bonjour, alors ça y est, nous y sommes, 15 septembre, on peut considérer que tout le monde est en train de reprendre le rythme de la rentrée. Enfants, parents, ados, adultes, tout le monde est concerné. Pour certains, c'est une nouvelle aventure ou alors c'est repartir sur de nouveaux projets ou des projets existants. Mais en tout cas, il y a un nouveau rythme. Ce rythme, ben, simplement, on s'est détendu pendant l'été. Et forcément, ben, on a apprécié, pour ceux qui sont pas partis en congé, le fait qu'il y ait moins de monde sur les routes, le fait que ben, il y a moins de collègues, donc moins d'interruptions, on est beaucoup plus détendu. Et puis ben, là, ben, maintenant, forcément, remis sous pression, reprise du collier pour certains, ça signifie simplement que les choses vont s'accélérer. Et cette accélération, elle est simplement liée au fait du changement d'horaire, changement de rythme, changement de saison, bref, le changement est partout, on est obligé de partir dans cette courbe, et c'est notamment en termes de déplacement, les bouchons, les files, le stress, les parkings blindés, les transports en commun qui sont remplis à craquer à certaines heures, etc. Et puis, c'est aussi les sollicitations. Les sollicitations vont évidemment aller de pair, avec notamment plein de notifications, beaucoup plus d'emails, beaucoup plus d'échanges, de partages, de réunions, etc. Et ben forcément, à un moment, on se retrouve très très vite à nouveau à un état de surmenage. Et ce niveau de surmenage dépend immédiatement de notre niveau de perception du temps. Cette perception du temps, en fait, ce ressenti par rapport au temps, il est également, en tout cas d'une manière générale, je dirais, lié à notre état d'esprit, à notre humeur, mais aussi à l'état d'esprit dans lequel on se trouve par rapport aux résultats qu'on obtient face à l'effort qu'on fournit. Et là, c'est vraiment très très puissant parce qu'en fait, c'est très simple. À force d'être interrompu sur une journée, peut-être 10, 15, 20 fois, alors qu'on essaie de démarrer une ou deux tâches, ça va nous mettre vraiment dans un état d'indisponibilité à la tâche fondamentale sur laquelle on avait décidé de se consacrer, simplement parce qu'on a passé énormément de temps à faire ce qu'on appelle des redémarrages. Et simplement, c'est pas une grande découverte, hein. Il suffit de démarrer un moteur pour savoir que ses performances sont pas optimales tant qu'il est pas chaud. Eh bien, le cerveau, il fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que notre cerveau, si on fait redémarrer chaque fois sur une tâche différente toutes les 2, 3, 5 minutes, à un moment, en fait, il est peut-être chaud, mais il est pas chaud pour aller dans une seule direction. Ça va partir dans tous les sens. Et ce qui est vraiment important, et ça a été démontré, vraiment, il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là. C'est que il y a un bouquin d'ailleurs à ce sujet-là qui s'appelle The Way We Are Working Is Not Working, une lecture vraiment très intéressante. Et donc ce qui a été remarqué, ça a été étudié en long et en large, c'est que le temps de concentration maximum pour pouvoir effectuer une tâche au maximum de ses performances, en tout cas, eh bien c'est entre une heure et une heure et demie. Donc c'est pas beaucoup plus que ce qu'on était capable de faire quand on était enfant, hein. On avait des séances de cours de 45-50 minutes, sauf qu'on en avait 6 ou 7 ou 8 même par jour, et finalement l'activité physique était pas très présente, il y avait quelques pauses, mais c'était une petite récré. Et puis finalement, dans les entreprises, ça a pas beaucoup changé, c'est toujours le même rythme, hein. Au final, on fait une petite pause le matin, on boit un café, on fume une clope éventuellement pour certains, on discute, et puis à moins de faire semblant de travailler, finalement, en fait, on travaille, mais on gère plein de choses en même temps. Et c'est vrai qu'on nous demande d'être multitâche, on doit être à disposition pour les collègues, le travail d'équipe fait partie du processus, et donc on est interrompu plein de fois pendant qu'on essaie de faire une tâche le plus correctement possible. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Ça veut dire simplement qu'en termes de résultats, on va y arriver moins vite et on va pas être au maximum de ses performances. En termes d'efficacité, c'est pas génial. Et ça, forcément, en termes de satisfaction par rapport aux résultats, c'est pas terrible non plus. D'autant qu'en fait, le résultat va être directement proportionnel à la qualité de l'effort qu'on aura fourni et notamment la sensation de satisfaction personnelle qui s'en dégage. Parce qu'un résultat qui est à la taille de notre effort, forcément, c'est aussi quelque chose de très réconfortant. C'est vécu comme une récompense. Et ça, c'est un principe qui n'est pas valorisé dans nos sociétés. La récompense, c'est vraiment, pour beaucoup de gens, c'est presque normal de travailler, d'avoir des résultats, en fait. Et je pense qu'on oublie vraiment de célébrer cet aspect-là. Bon, après, ça reste ma vision personnelle qui est partagée par beaucoup de monde, et c'est mon côté humaniste. Maintenant, la dimension du travail, le terme de satisfaction personnelle, le terme de satisfaction personnelle par rapport au travail bien fait, ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde partage. Et justement, pour atteindre un niveau d'excellence, eh bien, il faut pouvoir se mettre à fond dans une tâche sans être interrompu. Il faut atteindre vraiment ce niveau de sprint où notre cerveau est focalisé comme un faisceau laser sur un seul point, et il va pouvoir tenir sur la durée davantage que si simplement on a une lampe qui va éclairer à 3 mètres. C'est assez facile à comprendre, c'est presque une loi physique, enfin d'ailleurs c'est une loi physique par rapport à la lumière, mais je pense que c'est vraiment comme ça que fonctionne notre cerveau. Il y a un bouquin d'ailleurs d'un gars qui a un nom complètement imprononçable, j'avais le bouquin sur mon bureau, je sais pas où il est, il a écrit Flow, il a notamment écrit, c'est un psychologue ou un psychiatre, Hongrois, je crois, il s'appelle Mihail, Sisae Mihail, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un nom presque imprononçable. En tout cas, il y en a qui essaient, mais je crois pas qu'on ait vraiment trouvé comment ça se prononce, il faudra aller le voir. Mais vraiment, il a écrit des bouquins très intéressants, il s'est intéressé notamment à la notion de satisfaction et de bonheur. Si ça vous intéresse, vraiment, ça c'est vraiment des lectures que je peux recommander, mais bon, à la limite, il faut venir lire toute ma bibliothèque. Du coup, c'est vrai que j'ai lu des centaines et des centaines de bouquins. Mais bref, le sujet ici, c'est le flux, la théorie du flux, c'est simplement que quand on est dans un état de flux, on accède à toutes ses ressources, et pour ça, il faut être dans la détente. Et dans cette détente, on va trouver du plaisir dans l'action, et on va encore trouver beaucoup plus de satisfaction dans le travail accompli. Alors, c'est pas très compliqué, hein, le simple fait de s'être dépassé dans un effort va nous donner une satisfaction. Il y avait une expression qui disait « fier est l'homme de son petit tas de bois », mais c'est vrai, dès qu'on a fait un effort, en fait, il y a un niveau de satisfaction. Et il suffit, en fait, d'agrémenter ses journées, et j'aime bien le mot « agrémenter », parce que finalement, c'est un agrément. Et c'est très agréable pour tout le monde de se sentir dans un état de satisfaction personnelle parce que aujourd'hui on a accompli les choses, cette semaine on a accompli plein et au final on avance vers un objectif qui est plus grand et qui forcément se rapproche, et une fois qu'on l'aura atteint, il y en aura un autre, et on a cette sensation de croissance et d'évolution, et ça c'est extrêmement important, c'est ce qui donne du sens à nos actions. Le gros problème en fait qu'on a avec les technologies actuelles, c'est qu'on a un niveau de satisfaction extrêmement exigeant par rapport à nos attentes, et donc le gros souci, c'est que très vite on se pose une question, on trouve l'information, on a besoin de quelque chose, on l'obtient, on veut acheter quelque chose, on l'achète en ligne, il faut se livrer le lendemain, et ainsi de suite. Bientôt avec les drones, on sera livré dans l'heure. Le problème de notre attente, ce sont nos attentes. Nos attentes sont de plus en plus exigeantes, et notamment vis-à-vis de nous-mêmes, à tel point qu'elles créent un fossé entre notre capacité à produire humainement des résultats et à nous concentrer. Et il suffit de voir, par exemple, la manière dont les publicités fonctionnent. Ce sont des messages extrêmement courts, très percutants, parce qu'il faut vraiment capter notre attention, mais on est stimulé dans tous les sens. Et cette stimulation, elle prend notre énergie dans tous les sens. C'est le principe du neuromarketing à la base. C'est pas qu'il est négatif en soi, c'est juste qu'en fait, on est noyé là-dedans, dans un nombre de stimulations incroyables. Il y avait une étude qui avait démontré que par rapport à une personne du Moyen-Âge, on était stimulé environ 30 000 fois plus par jour. Forcément, bon, effectivement, on réalise peut-être des choses différentes, et c'est vrai qu'il y a une avancée sur le plan humain, sur le plan de l'évolution humaine, mais c'est pas pour autant que on est obligé en fait de fonctionner comme ça, nous aussi, par rapport à nos objectifs et par rapport à notre capacité de concentration. Si on veut avancer par rapport à notre propre vie, et notamment parce que ça a un intérêt collectif aussi, ça fonctionne également en équipe, il s'agit de mettre en place un rythme qui convienne à nos capacités personnelles sans se comparer à d'autres. C'est pas parce qu'une personne est capable de faire un sprint sur 400 mètres en autant de secondes que nous on doit faire mieux. On peut se comparer par rapport à nous-mêmes et essayer de se challenger nous-mêmes par rapport à nos objectifs et par rapport à nos capacités. On démarre toujours quelque part et chacun démarre de là où il se trouve. Après, le niveau de performance, il dépend de cette fameuse théorie des 10 000 heures. C'est que il suffit d'accomplir une tâche pendant 10 000 heures pour qu'elle devienne une compétence inconsciente. Mais 10 000 heures, ça représente plusieurs années. Et on va pas faire la même tâche à raison de 10 heures par jour pendant 3 ans pour pouvoir obtenir ces 10 000 heures. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit bien, c'est comme ça qu'on a appris à marcher. Le simple fait de se déstabiliser et de se mettre en danger, entre guillemets, et de se reprendre pour pouvoir faire un pas, au début, c'était hyper affolant. Un enfant, il tombe 2000 fois en moyenne. Mais par contre, il y croit complètement. Il voit autour de lui, il est encouragé, il persévère et finalement il apprend à marcher et maintenant on se pose plus la question. Pareil pour la conduite, on prend des micro-décisions qui font que, à un moment on n'y réfléchit plus, on peut faire plein de choses en même temps. Mais pour pouvoir faire plein de choses en même temps, pour pouvoir faire du multitâche, il s'agit d'avoir reproduit les 10 000 heures dans tous les domaines qu'on veut pouvoir gérer de manière inconsciente, et ça on n'y est pas encore. Donc voilà, c'est un peu une illusion de croire qu'on est vraiment multitâche, même si on nous dit partout que finalement c'est la clé pour pouvoir travailler dans telle entreprise, etc. Oui, on doit pouvoir être multicompétence, mais peut-être pas multitâche, en tout cas pas tout faire en même temps. Et je pense qu'il y a vraiment des gros morceaux, il y a des grosses choses qu'on doit pouvoir accomplir sur une journée. Et la théorie par rapport à ça, c'est qu'en fait le sprint n'est possible qu'à raison de 3 ou 4 fois par jour, à raison d'une heure à 1h30 de concentration complète, totale, pour être dans un état de flux. C'est un principe d'immersion, une immersion totale, et ça va générer une satisfaction, ça va être vraiment le résultat de l'effort par rapport à notre travail, et donc il va y avoir un confort et une satisfaction beaucoup plus grande. Et cette satisfaction, ça va évidemment jouer sur notre humeur, ça va jouer sur notre détente. Au lieu d'être en stress, au lieu d'être en course contre le temps, à partir du moment où on arrive à mettre en place un système pareil, eh bien notre cerveau va intégrer progressivement que effectivement elle est nourrie sur les trois plans. Il va être nourri sur le plan du cerveau triunique, donc sur le plan mental, émotionnel et instinctif. Et il faut savoir qu'il a aussi besoin d'autres choses pour pouvoir fonctionner au maximum de ses capacités, c'est de détente et de déconnexion. Il suffit de voir, quand on est en train de se concentrer depuis un moment sur quelque chose, qu'on a trop le nez près du mur, on fait autre chose et pouf, on trouve la solution à un problème. Ben, simplement, notre cerveau a travaillé pour nous. Il nous permet, en fait, d'accéder à notre créativité et à des nouvelles solutions dès qu'on sort du sentiment d'urgence. Et c'est vrai que ça, c'est un des aspects, notamment du neuromarketing. Le sentiment d'urgence va modifier le comportement de n'importe qui, notamment en termes d'humanité, notamment en termes d'assistance à l'autre, notamment en termes de respect de ses propres besoins. Et donc, ici, le principe, pour moi, c'est vraiment d'appliquer le principe de la journée idéale. Et donc sortir de ce sentiment d'urgence pour pouvoir augmenter notre capacité à accomplir des choses. Et c'est ce qu'on va appliquer, c'est un système, c'est vraiment une méthode qu'on va appliquer à notre environnement, qu'on va mettre en place pour adapter notre rythme en fonction de notre personnalité, qui va avoir un impact sur nos humeurs, et on va vraiment apprendre à avoir de la clarté sur notre focus, voir exactement comment on fonctionne et comment on peut augmenter notre niveau d'énergie en travaillant finalement beaucoup moins. Pour la plupart des gens, ça va vouloir dire en fait qu'en s'organisant comme ça, en se structurant comme ça, eh bien on va obtenir des résultats en travaillant deux fois moins. Donc quelqu'un qui travaille 10 heures par jour va finalement avoir l'impression de travailler, parce que c'est vraiment une question d'impression. Le travail, il faut pas oublier, le mot signifie tripalium. C'est un instrument de torture, c'est de la souffrance au départ. C'est pas le mot le plus agréable, on préférerait parler de passion bien sûr, mais bon bref, on aura la sensation de faire un effort à raison d'une demi-journée par jour plutôt qu'une journée complète. Et ça laisse évidemment la place à plein d'autres choses qui nous manquent, qu'on aimerait bien pouvoir mettre en place dans nos vies, mais qu'on ne parvient pas à faire parce qu'on est toujours en course avec le temps. Et bien ici, je vous amène vraiment une solution que j'ai mise en place moi dans ma vie, qui part du principe de la journée idéale et qui est applicable à n'importe qui. Il suffit de se réorganiser et de comprendre en fait que on a besoin, notamment pour trouver plus d'énergie, d'augmenter notre jus émotionnel et nos pensées de manière positive. Alors notre jus émotionnel, c'est ce qui nous met en mouvement, mais la plupart du temps, c'est des émotions négatives, donc qui vont générer des pensées négatives et une humeur négative. Et donc on va être en lutte, et cette lutte, cet état de lutte, va nous mettre en survie. Cet état de survie génère du cortisol, du stress, et forcément cette hormone-là, elle nous met dans un état de perception du danger plutôt que dans un état de détente. Résultat, le cortisol va détruire d'une certaine manière nos capacités. Notamment en termes de perception de l'environnement, on va avoir plus de dangers qu'on va avoir d'opportunités. Alors qu'au contraire, à partir du moment où on est détendu, eh bien, on va produire des hormones de détente, et cette détente va nous donner la sensation de bonheur, agrémenter notamment la sensation de satisfaction, de récompense, etc. Il s'agit de mettre en place ce système-là dans nos vies pour pouvoir y accéder. Le bonheur, c'est pas un état, c'est pas une destination, c'est un chemin, c'est un état d'être au quotidien. Et donc, pour pouvoir se sentir bien, tout en étant plus productif et en travaillant moins, ce qui paraît quand même fou pour beaucoup de gens, je sais que c'est complètement dingue, mais moi je me suis rendu compte, il suffit d'avoir un gros problème de santé pour se rendre compte à quel point on peut voir les choses différemment. Et puis il faut voir aussi comment les gens avec qui on travaille finalement ont tous une humeur de chien par moment parce qu'ils sont sous stress, alors qu'en réalité ce sont des personnes géniales. On l'est tous, on a tous une part d'ombre, une part de lumière, ça fait partie de notre personnalité. On peut s'intégrer dans notre personnalité ou au contraire se désintégrer et accéder aux forces obscures qui sont en nous, qui sont en chacun de nous en fait. Et plus on va s'entraîner les uns les autres là-dedans, eh bien forcément, on va tous finir par se taper sur la gueule. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. À un moment, il ne faut pas s'étonner que les relations deviennent difficiles. Si on n'est pas bien avec soi et qu'on est face à d'autres personnes qui sont pas bien avec elles, forcément, ça génère des tensions. Par contre, il suffit qu'une personne soit bien dans un environnement, elle va tout prendre. Par contre, si elle parvient à mettre en place ces barrières, cette sécurité pour ne pas être envahie par la souffrance des autres, notamment par le fait qu'ils sont stressés, eh bien là, il y a des choses qui peuvent se passer. Et justement, le système qui est en place et que je vous propose ici maintenant en formation, donc c'est vraiment un gros atelier qui va vous permettre vraiment de mettre en place une nouvelle structure de travail, une structure de travail sur le plan individuel et collectif, parce que c'est pas tout en fait d'avoir une libération des entreprises, on en parlait mardi, une libération des entreprises par rapport à l'horaire, changement de rythme, etc. Il faut bien tenir compte que ça arrange tout le monde, ça coûte moins cher aux entrepreneurs, ça coûte moins cher aux entrepreneurs et aux patrons, et en même temps ça donne des résultats en termes d'efficacité parce qu'il y a une meilleure satisfaction du personnel. Donc, en termes d'équipe, ça va fonctionner. Par contre, sur le plan individuel, si on ne met pas en place chacun son rythme et la connaissance de soi par rapport à ses besoins, eh bien, malheureusement, ça ne va pas super bien fonctionner. On va peut-être se détendre, mais ça pas pour autant qu'on va avoir la sensation d'avancer dans nos vies, qu'on aura toujours la sensation de croissance. La seule chose qu'on aura, c'est l'impression d'être plus détendu et moins contrôlé. C'est bien, c'est déjà un point de départ, ça retire une bonne partie de la pression, ça nous permet notamment de désengorger les routes, donc il y a un engagement quelque part sur le plan humain, mais aussi sur le plan écologique, donc c'est bénéfice pour tout le monde. Par contre, il s'agit aussi de mettre ce temps à profit, mettre cette énergie à profit, quelque chose qui nous fasse du bien et qui nous permette justement de nous compléter plutôt que de nous complaire. Et justement, Le principe ici de la journée parfaite, ça va être de jouer notamment sur ce temps qu'on va pas revenir à dégager pour mettre des contrastes. Des contrastes parce que notre cerveau en a besoin pour pouvoir générer l'état de bien-être et de disponibilité qui nous fait sortir de l'urgence, qui nous fait percevoir les choses avec beaucoup plus de recul, de détente. Et bien, il va falloir jouer sur des contrastes. Et ces contrastes, ça va s'impliquer dans nos tâches, en fait. On va faire des sprints, on va mettre en place des sprints par rapport aux choses les plus importantes. Et puis, on va jouer sur les contrastes qui vont nous permettre de déconnecter et qui vont donner la possibilité à notre cerveau de réaliser des choses pour nous de manière un peu inconsciente, c'est-à-dire d'accéder à des grandes idées, à des solutions, à résoudre des choses pour nous sans qu'on ait vraiment à se concentrer. C'est pas nécessairement en se concentrant volontairement et en mettant toute notre énergie de volonté qu'on va y parvenir, c'est aussi en lâchant prise et en réalisant des choses qui nous éloignent de la procrastination mais qui nous mettent dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Parce que la procrastination, finalement, c'est quoi? C'est la sensation que les choses vont être compliquées et donc on s'agrémente finalement de pensées négatives, et ces pensées négatives viennent compliquer encore davantage la tâche. Il suffit de voir comment on fait les choses dans un état d'esprit positif et comment on le fait quand on n'est pas de bonne humeur. C'est vraiment, pour moi, c'est ça la clé. C'est pas le temps le problème, c'est plutôt la manière de gérer ce temps pour justement que l'environnement extérieur en fait ne soit plus perçu comme un danger mais plutôt un allié. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est le sujet de la formation justement dont je vous parlais cette semaine. C'est une formation qui a pour vocation vraiment de nous aider à nous organiser pour remettre en place des résultats encourageants dans nos vies et ne plus se laisser bouffer par le temps ni par les nécessités des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus travailler en équipe et qu'on ne doit plus se mettre tout seul sur une île, loin de là. Ça veut dire simplement que je vous propose un processus de remise en question de votre méthode de travail qui va vous permettre de libérer du temps et qui va justement permettre de faire des choses qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant, qu'on aimerait bien faire, qui nous feraient du bien et qui sont en tout cas des explorations possibles et qu'on n'a pas eu l'occasion de faire parce que simplement il y a des impératifs extérieurs à nous qui nous empêchent d'accéder à la disponibilité à la fois sur le plan de notre énergie mais aussi en matière de temps, etc. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien simplement ça se passe en 7 modules. La première étape, c'est qu'on va évidemment faire le bilan complet de la manière dont on structure nos journées. Alors c'est en partie l'exercice que j'ai proposé hier, mais on va aller un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que on va effectivement lister les interruptions. Ça permet justement de comprendre à quel point toutes ces interruptions nous font perdre du temps. Et puis après, on va aller beaucoup plus loin. On va vraiment voir comment on structure nos journées et comment elles sont construites sur base de quel mode de fonctionnement un petit peu inconscient elles sont construites. Et à partir de là, eh bien, on aura une base de travail qui va déjà nous permettre de prendre conscience très très rapidement de ce qu'on peut améliorer. Et la deuxième étape, ce sera justement de redessiner sa journée. On va partir sur le concept de la journée idéale. On aura envie, évidemment, d'obtenir des résultats. Et notamment, eh bien, ce qu'on va mettre en avant, c'est, dans cette journée idéale, c'est de mettre en place des séquences de travail, des séquences de rush, des sprints, qui vont nous permettre de donner le maximum de nous-mêmes dans 3 ou 4 domaines qui sont vraiment importants pour pouvoir avancer, mais qui vont être limités dans le temps. Et justement, le simple fait d'utiliser ce principe de séquence, ça va être, évidemment, un moment où on va limiter les interruptions au maximum, et on va mettre en place un système de déconnexion totale après les sprints. Et c'est là le principe, en fait, et la méthodologie va vraiment nous permettre de répondre à tous nos besoins de cette manière-là, c'est qu'on va mettre en place une structure, un processus, un système dans lequel on va pouvoir imbriquer des activités. C'est vraiment reprendre son agenda et repartir à zéro en mettant des espaces d'une journée idéale pour pouvoir rentrer dans une démarche de travail, pour pouvoir pratiquer les choses qui sont nécessaires par rapport à notre volonté de résultat. Par contre, ce qu'on va apprendre à faire, et ça c'est vraiment hyper important, et c'est la troisième étape, on va apprendre à minuter différemment et à dissocier notamment notre activité des résultats. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous tirer vers le bas. Si on reste focalisé sur les résultats, on n'a plus que ça en tête et le stress peut venir du fait qu'on craint de ne pas les avoir ou de effectivement pas les obtenir. Il arrive qu'on fasse des choses qui n'amènent pas aux résultats qu'on escomptait. Et ça, c'est le principe du lean management. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je pars d'un principe en fait qui est peut-être un peu contre-intuitif au départ. C'est que on sait toujours quand on commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et c'est ça le gros problème, en fait. Pour pouvoir faire un sprint, il faut pouvoir se mettre un temps maximum. Si je parviens pas à faire mon 400 mètres en autant de temps, y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas moi le problème. Ça fait partie des croyances limitantes, on va en parler. Mais il suffit de voir, en fait, je sais plus quand, mais le record du autant de mètres a été battu, enfin, n'était soi-disant pas possible. On pouvait pas faire le 100 mètres en moins de 10 secondes, et pendant des années, tout le monde l'a cru et personne ne l'a fait. Puis un jour, quelqu'un a fait sauter ce record, et après ça, 10 personnes l'ont fait dans l'année. Donc c'est bien la preuve trouve que les croyances parfois sont limitantes et justement on va sortir de ça, on va sortir du principe que il faut effectivement un temps minimum pour faire les choses, on va plutôt décider de partir à l'opposé, on va faire un 180 degrés, on va mettre un temps maximum pour faire les choses qui correspond justement à notre état de disponibilité en termes de concentration. Il faut savoir que notre niveau de concentration va diminuer de 5 à 10% toutes les 6 minutes et à partir du moment où on sait ça, ça explique pourquoi en fait lorsqu'on assiste à une conférence, au bout de 18 minutes comme un TED par exemple, eh bien on considère qu'on a déjà atteint un niveau de saturation. Si on a perdu 30% de notre niveau de concentration, on commence petit à petit à fatiguer. Il s'agit pas d'en arriver là. Donc voilà, l'idée vraiment c'est de maintenir cette concentration en fonction de nos capacités. Et la quatrième étape en fait, ce sera d'intégrer cette structure dans notre journée, dans notre vie, de manière à équilibrer nos besoins. Et là, on va vraiment analyser les besoins, on va lister, on va faire un tas d'exercices, on va devoir faire des dessins, etc., relier les choses entre elles. Et ce qui va faire tout le travail en fait là à ce niveau-là, c'est justement de comprendre à quel point nos besoins sont satisfaits dans une tâche. Et à partir du moment où nos besoins sont satisfaits dans une tâche, on va pouvoir dégager les résultats. Et on va choisir vraiment les tâches qui nous amènent. On va pratiquer la méthode l'approche Pareto, les 80-20. 20% de nos efforts génèrent 80% des résultats. Et on va vraiment focaliser là-dessus et on va vérifier en fait que ça fonctionne. Donc il va y avoir une période d'adaptation pendant peut-être la première semaine. Il va falloir tester ce processus qu'on a mis en place et peut-être l'améliorer au fil du temps. Et donc moi ce que je conseille vraiment c'est mettre en place le processus, ça on l'aura déjà le premier jour, hein. Si on s'y met ça prend une heure ou deux de réflexion et après ça on aura déjà beaucoup plus de clarté. Vous verrez après le premier module, en une heure vous allez déjà voir beaucoup plus clair, ça va dégager de l'énergie, ça va vous clarifier par rapport à vos besoins, par rapport à votre manière de gérer votre temps. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir de l'ombre et qui vont permettre justement d'avancer avec beaucoup plus de clarté. Et c'est toujours important, même si on a un GPS et qu'on l'a programmé pour aller quelque part, si on avance dans le brouillard et qu'on n'allume pas ses phares, malheureusement, ou qu'on n'adapte pas sa vitesse, il y a des chances qu'on n'arrive pas au bon endroit. Donc vraiment, il y a plein de paramètres dont il faut tenir compte et on va les évaluer et on va mettre ça en place. Ensuite, l'étape suivante, ce sera donc de travailler sur ces fameuses croyances limitantes. La plupart du temps, les gens, alors c'est pas le cas de tout le monde, évidemment, ça dépend du niveau de confiance et d'estime de soi et des choses qu'on a déjà réalisées pour pouvoir y parvenir, mais c'est comme un muscle, hein, je l'ai déjà dit, la confiance en soi, on a peut-être beaucoup de confiance en soi dans un domaine parce qu'on a l'habitude, par contre, on fait autre chose. Enfin, je vous donne un exemple, moi je suis très très à l'aise, par exemple, dans mon travail, par contre, si on me demande de faire la cuisine, là, en fait, je serais pas du tout à l'aise. Donc voilà, en termes de confiance en moi, je vais l'acquérir. Là aussi, la théorie des 10 000 heures va intervenir. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment mettre en place un processus d'évaluation qui permet de tenir compte des résultats sans se remettre soi en question. On va vraiment dissocier ça. On va exploser les croyances limitantes pour remettre la volonté et la motivation à sa place. Et la volonté et la motivation, elle vient simplement faire démarrer. C'est l'énergie de départ. Il faut beaucoup d'énergie pour démarrer, mais ensuite, il faut mettre en place une habitude. Et dans cette habitude, il faut retirer les croyances limitantes qui nous empêcheraient d'avancer. Les croyances limitantes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chercher à se vérifier. On a tous en nous des biais cognitif et notamment un biais de confirmation qui cherche à confirmer nos croyances. Et donc on va faire sauter ça, notamment par rapport au fait qu'on serait responsable 100% des résultats. Non, la seule responsabilité qu'on a, c'est de mettre en place un processus. Et si le processus fonctionne, c'est pas nous le problème, c'est le processus. Et donc on va travailler le processus et on va se dissocier complètement de ce processus. Et ça, c'est très très important de savoir faire ça pour pouvoir mettre en place une habitude, en tout cas faire des nouvelles choses auxquelles on n'est pas habitué et mettre en place quelque chose de neuf. Ensuite, ce qu'on va faire, on va travailler sur notre environnement, on va mettre en place les différents pôles d'activité sur lesquels on va se concentrer et on va optimiser ces pôles d'activité pour pouvoir les équilibrer. Et à partir de là, on va notamment veiller à mettre en place des phases de déconnexion qui vont nous permettre en fait de faire les choses qu'on n'a pas prévues ou qu'on n'a pas l'occasion de faire et qui nous feraient du bien. Et qui finalement, puisqu'on a réduit notre temps de travail quasiment par deux en faisant vraiment des rushs, des sprints qui nous permettent d'atteindre des résultats précis qu'on aura ciblés, à partir de là, il va y avoir un niveau de satisfaction largement supérieur. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, on va jouer sur un état de qu'on appelle la limitation sensorielle, c'est-à-dire qu'en fait on va apprendre, ça c'est un exercice qui est beaucoup plus physique, enfin c'est pas très physique en fait, mais c'est un exercice mental relié au corps, où on va vraiment apprendre à mettre des sens sur off. La théorie du flux, c'est que à un moment on n'est plus dans l'activité, et dans cette activité on a besoin de certains sens et pas des autres. Et bien justement on va essayer d'atteindre cet état-là, c'est une sorte de privation sensorielle quelque part, inconsciente, mais qu'on va apprendre à conscientiser pour pouvoir en tout cas la générer quand on en a besoin. Et ça peut être nécessaire, notamment quand on est dans une foule en train de se concentrer, pour les gens qui sont sur un open space par exemple, pour pouvoir s'isoler du monde extérieur, c'est pas toujours facile. Notamment, parfois on croit qu'on n'entend rien, et puis il suffit qu'on prononce notre prénom et qu'on dise une phrase qui nous concerne à 3 mètres de nous ou à 5 mètres de nous, et on se rend compte qu'on croyait rien entendre, et finalement en fait on a capté des informations. Ou alors on entend une information de manière inconsciente, on ne sait pas qu'on la sait, et puis un jour on nous pose une question et on se rend compte qu'on sait ce qui s'est dit sur la table d'à côté. Donc voilà, notre inconscient, il capte les informations. Donc c'est vraiment important de travailler sur le système sensoriel dans lequel on va évoluer, et je vais vous donner quelques clés par rapport à ça, en tout cas celles que j'ai trouvées. Et puis ensuite, on va voir aussi comment gérer notre communication par rapport aux gens qui nous entourent et par rapport aux équipes dans lesquelles on veut mettre notre nouvelle méthode de travail en place, parce que forcément, ça va générer du changement en nous, mais ça va aussi générer du changement autour de nous. Donc il s'agit vraiment de pouvoir communiquer par rapport à ça, et éventuellement en fait se trouver un ou plusieurs partenaires, hein, plusieurs alliés dans cette démarche qui ont envie de faire la même chose, qui vont se mettre sur la même longueur d'onde et avec qui on va pouvoir s'entraider et développer une approche. Moi j'avais donné cet exemple en fait d'une entreprise où on avait mis en place un code en fait avec les lampes qui permettait de savoir si une personne était disponible ou pas. Bon, ça c'est un point de départ, après il y a tout un autre processus, voilà, on va l'aborder, ça fera partie du dernier module de cette formation. Alors voilà, cette formation, vous avez directement accès en tout cas au premier module, progressivement les autres, je dois juste les finaliser, les mettre en ligne, vont apparaître durant le week-end. C'est disponible en pré-vente puisque j'ai encore du travail et puis vous avez attendu un petit peu, c'est disponible en pré-vente à la moitié du prix, et puis ensuite eh bien vous pouvez avancer dès la première étape. En fait vous allez trouver beaucoup plus de clarté, de sérénité, de détente dans l'organisation de votre temps. Vous allez pouvoir immédiatement comprendre où vous allez dégager du temps pour réaliser ce qui vous tient à cœur, et donc la question, ça va être immédiatement très très positif et très énergique. Finalement ça va vous permettre d'aller très en profondeur dans ce qui vous tient à cœur et vous donner une nouvelle vision sur ce que vous avez envie d'effectuer, puisque vous allez automatiquement, que vous le vouliez ou non, vous allez automatiquement, si vous appliquez le système, vous allez automatiquement obtenir des résultats immédiats, ne fût-ce que dans votre tête, et c'est là que ça commence. Je le dis, enfin la première phrase de mon site, c'est ça, le succès démarre dans notre cerveau, ça démarre dans notre esprit, notre état d'esprit. Donc on va aller en profondeur là-dedans, et il y a juste une chose que je dois dire, c'est que ça ne va fonctionner que si vous voulez vraiment changer les choses. Si vous venez prendre cet atelier, ce coaching, enfin vous le prenez comme vous voulez, formation, comme peu importe, mais si vous ne passez pas à l'action, si vous prenez pas le temps d'écouter et d'écrire et de prendre les notes et de faire les exercices que je vous propose, ça va pas donner des résultats. Donc c'est vraiment destiné aux personnes qui veulent changer les choses, qui veulent améliorer leur vie, en tout cas au quotidien, mais qui veulent aussi changer d'état d'esprit. On a 80% de pensées négatives, on a parfois une insatisfaction au quotidien, on a parfois difficile à gérer, à garder la bonne humeur en permanence. Simplement, si on n'atteint pas cet état de joie, c'est parce qu'en fait on n'a pas mis en place le processus qui permet de la trouver, de l'atteindre et de la maintenir dans le temps. Et le stress est une des raisons, l'environnement, enfin voilà, on vient d'en parler. Maintenant ici, moi je vous amène vraiment une solution que j'ai testée, que j'ai mise en place pendant plusieurs années et qui fonctionne. Je l'ai proposé à pas mal de personnes, ça fonctionne, la seule chose c'est qu'il faut le mettre en place. Donc voilà, je vous propose vraiment de vous engager dans ce processus, sinon malheureusement vous risquez d'être déçu. Alors si quelqu'un parmi vous disait, en fait cette méthode elle est complètement folle, elle a pas fonctionné, elle a détruit ma vie, mon chat s'est barré, mes gosses me parlent plus, ma femme veut me quitter, ok, je veux bien, on en parle, mais il s'agira de me prouver, moi je veux bien vous rembourser, hein, si vraiment ça sert à rien. Je pars du principe en fait que si on applique tout ça et que ça fonctionne pour un tas de personnes, il y a forcément quelque chose qui coince, et donc là peut-être qu'il faudra qu'on en parle, qu'on évalue où ça coince à un autre niveau. Maintenant, si on est vraiment dans l'ouverture, dans le pragmatisme et qu'on met ça en place dans notre vie, je pense qu'on peut très vite savoir en une semaine, d'ailleurs vous allez voir tout de suite en fait, hein, dès le premier module, vous allez voir en fait c'est grandiose, c'est juste exceptionnel. Enfin, franchement, moi j'ai mis du temps à arriver à ça, à arriver à ces conclusions, j'ai étudié beaucoup cette question et au final en fait je me rends compte, oui effectivement ça fonctionne, et c'est vrai que parfois le simple fait de l'entendre semble complètement fou, c'est des promesses, c'est un peu le principe du bouquin de Tim Ferriss, hein, tout le monde le connaît, la semaine de 4 heures, on automatise un maximum, etc. Je pense que c'est une réalité pour certaines personnes. Par contre, moi, je pense que la journée de 4 heures de travail, en tout cas en termes de perception de travail, oui, ça existe. Après, ça ne veut pas dire qu'on va glander le reste du temps et commencer à s'endormir. Au contraire, sauf si on a besoin de récupérer du sommeil. Mais voilà, on va vraiment apprendre à gérer tout ça et à mettre en place un système qui fonctionne pour chacun et qui sera propre à chacun, forcément, qui va tenir compte des besoins de chacun. Voilà, je vous retrouve donc tout de suite pour ceux qui prennent la formation. Et sinon, je vous retrouve lundi dans le prochain podcast. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de regarder. Donc, il y a des conditions particulières. À partir de lundi, en fait, quand l'ensemble de la formation est mis à disposition, et je vais lancer notamment une campagne de publicité par rapport à ça, elle sera au prix plein, ou peut-être qu'il y aura encore une promotion. Ça dépendra du nombre de personnes. Vous me connaissez un petit peu. J'ai envie de rentabiliser, évidemment, ces années de travail qui sont derrière et le temps de travail que j'ai mis, notamment cette semaine, pour pouvoir la réaliser. Ça restera toujours moins cher qu'une journée de formation en one-to-one, même si un accompagnement peut être nécessaire. Mais bon, voilà, vous voyez déjà en fonction de vos besoins, ça c'est un super point de départ. Et ça, c'est la formation de la rentrée qui vient compléter mon approche du neuromarketing humaniste Humanité 2.0, qui vient compléter notamment une démarche en personal branding pour ceux que ça intéresse. Peu importe où vous en êtes, la gestion du temps, ça nous concerne tous. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment de mettre en place cette thématique depuis 15 jours pour la rentrée. On est tous concernés et je pense que le simple fait de s'offrir ce moment de réflexion et cette adaptation va permettre au minimum de se retrouver très très rapidement en octobre avec un niveau d'énergie et de clarté très très différent de celui dans lequel on se trouve maintenant. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est l'objectif de cette formation. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à lundi dans le prochain podcast. À bientôt. Ciao.